le grand rendez-vous de l'immobilier, une émission présentée par Capital et Radio Immo.
Eh bien, bonjour à toutes et à tous, et je suis ravi de vous retrouver dans ce mois de juin un peu chahuté. Certes, bien évidemment, avec un climat géopolitique particulier, mais on va parler d'immobilier, on va parler de votre logement. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre chaque mois dans le grand rendez-vous de l'immobilier. Eh bien, c'est la 60e, ça fait déjà 5 ans que nous œuvrons à vos côtés pour vous partager toutes les informations avec nos amis de Capital.fr et bien sûr de Radio Immo. Je ne peux pas m'empêcher d'avoir un petit mot pour celui qui nous a accompagnés, qui était rédacteur en chef à Capital.fr. C'est notre ami Guillaume Chazoulière qui est allé vers des cieux nouveaux. Il est allé dans un journal qui s'appelle L'Informé. Donc on lui souhaite tout le bonheur possible dans cette nouvelle aventure. Et bien sûr, nous retrouvons avec Capital celui qui désormais va partager l'affiche avec nous chaque mois dans le grand rendez-vous de l'immobilier. C'est Antoine Laurent que vous voyez régulièrement dans le grand jury de la presse. Bonjour Antoine.
Bonjour Sylvain, bonjour à tous.
Comment ça va ?
Eh ben ça va très bien, je suis ravi d'être ici. Merci pour l'invitation.
Alors, bienvenue dans l'équipe. Alors justement, pour cette 60e symbolique, on va bien sûr parler de la crise immobilière et on va parler bien évidemment du neuf. Antoine.
Eh oui, parce que bon, je vais l'apprendre à personne, mais effectivement, le logement neuf est dans une crise très profonde. Je ne vais pas vous assommer de chiffres, mais simplement pour rappeler un peu le contexte. 123 000 constructions en 2023 en moins par rapport à l'année précédente. Des chutes de parfois 40% dans certaines régions, notamment en Auvergne-Rhône-Alpes. Et voilà, donc c'est un gros sujet. Je pense qu'on va en parler avec Sharon Elbaz aujourd'hui, parce que certes, il y a la crise, mais il y a aussi des solutions pour essayer de surmonter cette crise.
Absolument. Et d'ailleurs, il fallait que nous parlions avec des professionnels du secteur. C'est pour ça que nous avons invité l'un des patrons incontournables de l'immobilier, il est président de Nexity Héritage, Sharon Elbaz. Bonjour.
Bonjour Sylvain.
Merci de vous prêter à l'exercice. On verra bien évidemment aussi, puisque c'est aussi l'objectif, que des solutions existent. Il suffit simplement de s'y pencher. Peut-être qu'avec les nouvelles orientations politiques, en tout cas ceux qui se préparent, dont personne ne connaîtra forcément l'issue, les choses iront mieux. En tout cas, il s'agit bien évidemment de l'immobilier des Français. Également, chaque mois, les amis, ça vous concerne. Vous posez toutes vos questions, comme vous le faites tous les mois, sur le groupe le Facebook Les Proprios, qui est géré par Capital. Et c'est notre ami Vincent Favreau, le producteur de l'émission, qui va s'y coller. Voilà, aux notaires, les avocats, les agents immobiliers répondront à toutes vos questions. Merci d'être avec nous et sans plus attendre, on part sur le grand rendez-vous de l'immobilier. C'est la 60e.
Le grand témoin.
Voilà, première partie de l'entretien avec notre ami Sharon Elbaz. Bonjour. On va évoquer avec vous, si vous voulez bien, l'immobilier neuf, mais pas que. On va évoquer ce qui aujourd'hui est très à la mode, c'est ce qu'on appelle la régénération urbaine des logements. Pas que d'ailleurs des logements, c'est comment finalement la ville se construit sur elle-même et comment finalement la régénération urbaine, pour vous, groupe Nexity, est un levier de croissance. Merci en tout cas, Sharon Elbaz, de vous être prêté à cet exercice. C'est la première question que vous est posée par notre ami Antoine Laurent.
Oui, alors avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, j'ai tout simplement une question très simple à vous poser. C'est, on la connaît, c'est le contexte, on connaît cette crise. La question, première question que j'ai envie de vous poser, c'est: comment va Nexity dans ce contexte? Quelle est sa santé et voilà.
Alors, comment va Nexity? Je ne vais pas vous dire que Nexity va très bien. Nexity ne reste pas inactif. Nexity se transforme, Nexity bouge face à cette crise qui est multifactorielle, on pourra revenir dessus. Sous l'impulsion de Véronique Bédague, la présidente, Nexity se transforme pour s'adapter à un nouveau contexte qui nous semble structurellement redéfinir la construction de l'immobilier, mais au-delà, la construction de la ville.
Sharon Elbaz, à l'heure où nous enregistrons cette émission, on ne peut pas ne pas en parler, il y a une crise politique majeure dans notre pays qui va affecter durablement, bien évidemment, les orientations sur le logement, sur la construction. Est-ce que, justement, à votre avis, tous ces bouleversements qui créent de l'incertitude, qui créent du manque de confiance, peuvent être très de nature à aggraver encore plus la situation telle qu'elle est aujourd'hui?
Merci pour cette question, Sylvain. Je n'ai pas de boule de cristal. Les Français et Françaises ne sont pas encore exprimés. Très difficile pour moi de se projeter, et pour nous, hein, pour se dire ce qui va arriver. Effectivement, vous l'avez rappelé, pour l'immobilier, il y a deux facteurs qui sont fondamentaux. Il y a le pouvoir d'achat immobilier, le pouvoir des gens, leur capacité à acheter. Il y a aussi la confiance. Donc effectivement, une crise politique de cette ampleur, dont on ne connaît pas l'issue encore, est de nature à installer un contexte macroéconomique qui sera beaucoup plus large et dans lequel va s'inscrire notre activité. Et les répercussions peuvent aller beaucoup plus loin que le seul secteur de l'immobilier.
Alors, Antoine, on est quand même dans un paradoxe parce qu'on voit qu'on construit moins depuis de nombreux mois. Et pourtant, on est face à une crise de logement. On manque de logements dans certains territoires. Alors, moi, la question que je me pose là, c'est qu'est-ce qu'il faudrait pour relancer cette construction et quels sont les critères? Qu'est-ce que demandent les gens, les acheteurs aujourd'hui qui achètent un logement neuf?
Il y a toujours autant de monde qui veut être logé.
Oui, je crois que les gens ont envie d'acheter et être propriétaire. Le point fondamental, hein, c'est que dans l'immobilier, je veux dire, notre demande existe toujours. Le problème, c'est que les gens n'ont pas toujours les moyens de se porter acquéreur de leur appartement. Donc il faut essayer de débloquer ce sujet du pouvoir d'achat immobilier. Mais plus globalement, tout à l'heure, je vous ai dit, Nexity ne reste pas immobile. Alors, on se transforme. Donc nous, on a lancé une grande transformation qui vise à restructurer l'outil qui est Nexity, qui est le premier promoteur français, pour s'adapter, pour mieux adapter notre offre. Adapter notre offre, c'est quoi? C'est tirer la conséquence de ce qu'on voit à l'œuvre dans la construction de la fabrique de la ville depuis quelques années, qui est ce passage du produit, le tertiaire, le résidentiel, Sylvain l'a évoqué tout à l'heure, vers les usages. Donc notre métier, c'est de construire la ville au plus près des usages tels qu'ils évoluent. La ville, c'est un organisme vivant. Il y a des nouvelles demandes, des nouveaux besoins, et on essaye de les adresser. On transforme l'outil, c'est anecdotique et c'est important. Aujourd'hui, tout Nexity se restructure autour d'une territorialisation, d'une régionalisation, où le président de la filiale territoriale va adresser l'ensemble de l'offre et de la demande sur un territoire. Ça, c'est du côté de l'offre. Après, effectivement, vous l'avez évoqué, on reviendra dessus avec Nexity Héritage, on se positionne aussi sur la ville de demain, on parle de régénération urbaine, on parle de construction hors site. On parle surtout, sur le fond, d'essayer de construire des logements qui soient accessibles à nos concitoyens. On ne peut pas tout attendre de l'État. J'entends bien qu'on ne peut pas construire le premier promoteur français et le laisser aller au gré des différentes politiques nationales, qu'elles soient positives ou pas. Nous, on a pris notre destin en main et on essaye de proposer, on mène le combat du logement abordable. Il faut agir sur le foncier. Il faut agir sur les prix d'acquisition des immeubles, des fonciers. Il y a le prêt à taux zéro qui est une excellente nouvelle. Et aujourd'hui, on continue à vendre des logements sur tout le territoire. Donc il faut adapter l'offre qui correspond aux besoins de chaque territoire.
Alors justement, on le rappelle, Nexity, vous l'avez rappelé, vous êtes le numéro un, vous êtes le plus important acteur du marché du neuf en France. Juste quelques mots, hein, quelques chiffres. 14 602 réservations de logements neufs en 2023, 4,3 milliards d'euros de chiffre d'affaires. La question qu'on peut se poser, on vous l'a déjà posée, c'est d'où est venue cette idée chez Nexity de créer une marque héritage? Est-ce qu'à travers héritage, on voit le rebond, c'est-à-dire la redéfinition d'un nouveau modèle, d'un new Nexity, d'un changement de cap du paquebot Nexity vers autre chose, vous l'avez dit, dédié à la rénovation et à la régénération urbaine, parce qu'on on voit bien que les orientations, les analyses, les articles qui sont publiés parlent justement de cette régénération comme étant un peu la martingale. Je vais reprendre également, pour illustrer le propos, ce que vous avez fait avec le groupe Carrefour, qui marque aussi une étape de cette régénération urbaine.
Et nous, on s'adapte, en fait, la régénération urbaine, moi, je ne crois pas, et je crois que c'est partagé au sein du groupe, à la martingale en immobilier. On a eu beaucoup de réunions où, à un moment, vous parliez de mode de la régénération. Moi, je récuse ce terme, ça fait 10 ans qu'on en fait chez Nexity. C'est un mode de fabrication de la ville qui correspond à la demande des élus, à la demande des habitants. Donc, il n'y a pas de mode de transformation des bureaux en logement, la mode de la régénération, la mode du BRS, du bail réel solidaire, etc. Je pense que pour essayer, c'est un marché qui est difficile, pour lutter contre la perte de pouvoir d'achat immobilier de nos concitoyens, il faut déployer une palette de solutions, on verra peut-être ça tout à l'heure, qui permettent de répondre à cette demande. Alors on a acté, effectivement, l'outil se transforme, vous savez que Nexity bouge, on simplifie, on essaye d'être plus agile, avec toujours drivé par cet objectif de produire du logement abordable, loger des gens, mais produire les usages qui correspondent aux demandes, hein, c'est-à-dire qu'on est autant sur les résidences hôtelières que sur les nouvelles formes d'habiter, on est sur du co-living, on a parlé, la régénération urbaine, c'est d'abord une révolution des usages. Alors, on va continuer à produire du logement de manière un peu traditionnelle dans certains endroits, et puis en cœur de métropole, on aura une autre
offre,
etc. Dans l'activité,
la régénération va prendre le pas sur la construction de
logement. Je ne crois pas. Je crois qu'aujourd'hui, on se positionne, et on s'est positionné, c'est simplement un constat, il y a une demande de sobriété, qu'elle soit sur le foncier, sur l'économie de la construction, il y a une demande de décarbonation de notre industrie, la régénération, puisque la régénération, c'est la transformation de l'existant. C'est la réhabilitation, j'y reviendrai tout à l'heure, mais pas que, on fait aussi du neuf. Carrefour, c'est du neuf sur des sites que l'on repositionne. Un Carrefour avec ses parkings, avec des grandes nappes de parking, il y a une évolution des usages qui fait que les grandes nappes de parking, le tout voiture, etc., je fais mon plein une fois par semaine dans des hyper en entrée de ville, tout ça a un peu changé. Et c'est deux industriels qui se rejoignent. On a un leader, Nexity, de la régénération urbaine, de la fabrique de la ville, et un leader de la grande distribution qui se rejoignent pour créer, on va dire, la centralité commerciale dans une ville mixte, redéfinir les entrées de ville de demain. Voilà. Et c'est ça, être leader, c'est toujours avoir un temps d'avance pour essayer de coller aux nouveaux usages. Là encore, avec tous les efforts qu'on pourra fournir, si on n'arrive pas à faire en sorte que le logement reste abordable pour nos acquéreurs, on n'y arrivera pas. On a acté quand même la transformation, elle est assez Bien simple. Sûr. On a acté le fait qu'il y aurait Nexity qui produisait beaucoup, qui était premier en produisant beaucoup de logements, c'est-à-dire sur le volume. Aujourd'hui, on va moins vendre de logements en détail. Donc on a multiplié les autres types de commercialisation.
Par exemple, la vente en bloc.
La vente en bloc, mais la vente en bloc, c'est du logement social, c'est aussi du logement intermédiaire.
Bien sûr.
C'est aussi les nouvelles formes d'habiter, c'est une autre forme de vente en bloc avec des institutionnels que sont le co-living, les résidences seniors, les résidences étudiantes.
Bien sûr.
Et on diversifie. Et je vais plus loin, la diversification chez Nexity, c'est tout l'environnement de la promotion, mais qui va jusqu'aux nouvelles énergies, puisqu'on a créé Nexity Solaire, qui part du même principe, hein. Vous avez une recherche de fonciers qui sont inconstructibles, et une ferme solaire, ça peut être un relais de croissance pour le groupe, et en même temps, ça répond à une demande, à un usage Bien. Sur le territoire. Donc on ne reste pas immobile et on ne subit pas la crise. C'est ça qui est important, et on n'attend pas que le gouvernement adopte la nouvelle loi qui va sortir la promotion de la crise.
Alors justement, vous avez parlé de deux mots-clés, à mon sens, c'est sobriété et énergie. Ouais. Et ça nous amène forcément à une question qui va aussi nous amener sur la deuxième partie de l'émission, c'est la question de la performance énergétique des bâtiments, notamment quand on parle de régénérer la ville. Bon, le DPE, il a connu beaucoup de réformes ces derniers mois.
C'est moins qu'on peut dire.
Voilà, on se demande si réellement il est fiable. Et donc moi, les deux questions que je me pose, c'est est-ce que pour vous, le DPE est un outil aujourd'hui fiable pour mesurer la performance énergétique des bâtiments, et est-ce que les objectifs d'avoir des bâtiments très bonnes, à très faible émission, enfin de consommation d'énergie, n'engendrent pas des problèmes de coûts chez vous aujourd'hui ?
Alors, il y a plusieurs questions dans votre question. Le sujet de l'énergie et de la décarbonation, c'est un sujet qui est à la fois complexe et je botte pas en touche, mais il faut y répondre à deux niveaux. C'est-à-dire que, un, vous parlez du DPE, ça concerne l'acquéreur final. Donc, par exemple, en réhabilitation, vous êtes très vertueux du point de vue carbone, puisque vous ne démolissez pas. Donc, dans le cycle de vie du bâtiment, par exemple, que vous réhabilitez, vous êtes 30-40%, vous avez une empreinte carbone qui est inférieure de 30 à 40%. En revanche, dans le logement final, parce qu'on transforme l'existant, parfois c'est du patrimonial, avec un architecte des bâtiments de France qui est très précis sur la conservation de certaines huisseries, certains ouvrants, les fenêtres, etc., qui font que, à la fin, le DPE, en réhabilitation, nous, on vise un label qui est particulier, parce qu'on a une dérogation, c'est de la réhabilitation.
Bien sûr.
C'est BBC, rénovation, où on va arriver, si vous parlez de DPE, au niveau C. Quand on fait des quartiers d'ingénération, évidemment, notre souci à l'échelle d'un quartier, c'est de développer tout ce qui est géothermie et sources d'énergie non renouvelable qui puissent alimenter tout un quartier. On développe aussi les pompes à chaleur. Évidemment que l'ensemble des nouvelles réglementations a un surcoût, mais qu'on sait absorber, si vous voulez. Je pense que c'est un faux sujet, puisque c'est une économie globale. Il suffit, alors effectivement, d'acheter les terrains moins chers, d'intégrer ces différents coûts. Mais je pense que la décarbonation, c'est une marche sur laquelle on ne reviendra
finalement,
pas.
Finalement, c'est un
on
peu,
peut s'interroger sur le rythme.
Oui, mais voilà, finalement, c'est un peu comme, c'est comme un poste comptabilisé. Est-ce que vous le mettez hors bilan dans l'investissement ou est-ce que c'est une charge contrainte?
C'est un incontournable.
Oui, bien sûr. Je vous propose qu'on en parle et merci de rester avec nous dans la deuxième partie de l'entretien. Merci, Charnel Bazes. Vous restez avec nous. On va écouter nos experts, avocats, agents immobiliers ou tout simplement notaires. C'est vous qui poser les questions, ils viendront pour vous y répondre. On se retrouve tout de suite après ça pour la première séquence de Ça vous concerne.
Ça vous concerne.
Les amis, Ça vous concerne, première partie, comme vous le savez, tous les mois avec mon camarade de jeu Antoine, on fait le parcours justement des questions, puisque l'objectif de nos amis de Capital comme de Radio Immo, c'est de répondre à toutes les questions. Et depuis quelques années maintenant, on a l'astre de Ça vous concerne. Celui qui modère et qui pose les questions, c'est l'ami Vincent. Comment oui, il va aujourd'hui?
Ça va.
Bien, ça va bien.
Merci, bonjour.
Voilà. On a une super notaire oui. sur le plateau et on ne va pas se priver de lui poser des questions.
Exactement. Pauline Bourguignon, bonjour, bienvenue.
Bonjour, merci bonjour. De votre accueil.
Notaire à Paris dans le 8e. Deux questions pour vous, issues du groupe Facebook Le Club des Proprios. La première d'Anthony Hameau. Il a deux enfants. Il a une maison qu'il souhaite donner à un des deux enfants. Le second est d'accord. Est-ce que c'est possible?
Et pas rancunier.
Alors, c'est possible. Déjà, c'est une bonne chose d'anticiper sa succession, de faire une donation. On sait qu'en donnant de son vivant, ça permet de transmettre en optimisant fiscalement les droits de succession à venir. Donc, c'est une bonne chose de faire une donation. La donation, elle peut être faite en démembrement de propriété. Le sujet n'en parle pas, mais effectivement, il peut se conserver l'usufruit, donner qu'en nue propriété, là aussi pour
c'est vachement intéressant, ça, fiscalement, non?
Eh bien oui, parce qu'on a un abattement de 100 000 euros par parent et par enfant. Donc, s'il ouais. n'a pas fait de donation déjà, ça permet quand même de réduire sensiblement les droits. Alors, ensuite, la donation, j'entends deux enfants, l'idéal, ce serait que la donation soit une donation partage et égalitaire. Pourquoi? Parce qu'une donation partage, ça fige les valeurs. Donc là, on comprend qu'ils sont d'accord pour faire cette donation aujourd'hui et de se mettre d'accord sans doute sur une valorisation de cette maison. L'avantage de faire une donation partage, c'est qu'on ne revient pas au jour de la succession sur les valeurs qui ont été données. Et moi, j'insiste pour envisager plutôt une donation égalitaire. C'est-à-dire que, mais là, c'est une consultation patrimoniale qu'on devrait avoir avec le donateur. Quelle est la consistance de son patrimoine au global? Est-ce que la maison est la totalité de son patrimoine ou non? En fait, c'est ça la question. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, l'idée, c'est de donner à l'enfant numéro 1 la maison et à l'enfant numéro 2 un lot qui soit de valeur égale à la maison, de sorte que tout le monde a été alloti au moment de la donation, ce qui évite bien des soucis dans un deuxième temps. Alors, si ce n'est pas le cas, si on n'a pas autant
est-ce qu'on
de...
Peut, excusez-moi, est-ce qu'on peut faire les deux? Démembrer et donner, non?
Bien sûr.
Ah oui, d'accord.
Oui, bien sûr. L'idée, c'est de donner en nue propriété. Alors, il a peut-être d'autres biens, ce monsieur. Donc, voilà, c'est une donation, ça se prépare. Hein. Donc, l'idée, c'est d'aller voir son notaire, justement, qui fera une consultation patrimoniale, qui envisagera les différentes options en fonction de l'aspect financier aussi du patrimoine. Donc là, on comprend que la volonté, c'est de donner à l'un. Peut-être qu'en fait, il n'y a qu'une maison dans le patrimoine. Et là, dans ce cas-là, il est possible de donner en avancement de part successorale. Alors, là aussi, peut-être que la personne qui aura eu la maison sera dans l'obligation, pour compenser l'inégalité, de remettre une soulte à son frère ou à sa sœur. Parce qu'il faut bien avoir en tête qu'en France, on ne peut pas déshériter un enfant. Il y a le système de réserve héréditaire. Quand ils sont deux enfants, chacun a droit à un tiers du patrimoine. Donc, on peut disposer du tiers restant, qu'on appelle la quotité disponible. Mais voilà, donc ça, c'est possible. Et si la maison correspond à deux tiers du patrimoine, il peut aussi, par testament, décider de dire que un de ses enfants aura deux tiers de la succession et l'autre un tiers. Voilà, ça dépend aussi de l'objectif poursuivi par le donateur. Là, on sait que le deuxième est d'accord, mais est-ce qu'il est d'accord finalement pour une inégalité, ou est-ce qu'il est juste d'accord pour ne pas avoir la maison mais avoir l'équivalent en
et
argent?
Le deuxième réservataire, c'est-à-dire que apparemment il y a un frangin ou une frangine,
oui, c'est ça,
qui est d'accord.
Oui, qui serait d'accord.
Il faut que ça matérialise, hein, ça se matérialise.
En fait, voilà, il faut qu'il soit. Il est d'accord. Pourquoi? Souvent, ouais, les gens viennent nous voir, ils disent qu'ils sont d'accord, et puis on comprend qu'il est juste d'accord pour ne pas avoir la maison héritée de la maison de famille, parce que lui-même a d'autres biens. Ouais. Est-ce qu'il est d'accord pour autant pour ne pas avoir le même patrimoine au décès de son père que son frère ou sa sœur? C'est peut-être pas le cas.
Donc, si on devait récapituler, on peut donner et démembrer.
Oui, tout à fait.
Ou démembrer et donner.
C'est possible, ça, et ça demande quand même.
Non, mais c'est vachement bien.
Petite consultation.
C'est vachement bien, parce que je crois que fiscalement, c'est les parents qui paient les impôts du vivant, hein, c'est ça?
Alors, les deux sont possibles, mais il est tout à fait envisageable de faire que les droits de donation soient payés par le donateur. C'est accepté par l'administration fiscale.
Vous le recommandez quand les clients vous consultent?
C'est
des situations.
En général, les donateurs le souhaitent, puisque souvent, c'est eux qui sont à l'initiative de la transmission. Mais il est déjà arrivé que des enfants soient déjà très heureux de recevoir quelque chose et ne souhaitaient pas que leurs parents s'appauvrissent encore plus. Et ça leur faisait aussi plaisir de contribuer à cette transmission en payant les droits. Donc, on voit de tout. Voilà.
Ça me fait penser à la pièce du père Goriot, vous savez,
oui. Ouais.
Qui se démunit pour ses enfants, qui ne lui rendent pas, d'ailleurs. on enchaîne. Merci, oui. Pauline Bourguignon.
Avec une question maintenant d'Irène à Célesta. Elle a bientôt 70 ans, elle est propriétaire. Elle nous dit qu'elle a entendu parler d'une loi qui stipulerait qu'elle doit faire le nécessaire auprès d'un notaire pour régler sa succession. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'une loi existe? Est-ce qu'elle est obligée, Irène? Pauline Bourguignon.
Alors, j'apprends quelque chose. Hein, ouais.
Moi aussi. Non, pas de son vivant. Je pense que ce qu'elle a en tête, et sans doute ce qu'on lui a conseillé, c'est d'aller voir son notaire de son vivant pour organiser sa succession. Donc là, ça rejoint la première question posée. L'idée, c'est encore une fois, plus on transmet de son vivant, plus on s'organise, eh bien, plus on optimise fiscalement sa succession. D'autant qu'elle a 70 ans, donc elle n'est pas encore passée à la tranche supérieure. Vous savez, quand on parle de démembrement, il y a un barème de l'usufruit, un barème fiscal, qui est un barème progressif et qui change tous les 10 ans à partir de 71 ans révolus, elle passe dans la tranche supérieure. Donc si elle décide de faire une donation aujourd'hui, par exemple, son usufruit sera évalué à 40%, dans un an, il sera évalué à 30%. Donc là, c'est intéressant d'anticiper et de transmettre de son vivant. Alors, si elle ne fait rien, eh bien, ce sera à ses héritiers d'aller voir un notaire pour régler la succession. Donc la question, c'est est-ce qu'on est obligé, est-ce qu'il y a une loi? Oui, en France, on est quand même obligé de s'intéresser à ces sujets-là quand quelqu'un décède. Et il faut avoir en tête qu'une déclaration de succession doit être en général enregistrée au service de l'enregistrement du domicile du défunt. Il y a des cas où on peut être dispensé. C'est les cas où il n'y a pas de testament, où il n'y a pas de donation, où il n'y a pas de bien immobilier, où... le patrimoine est inférieur à 50 000 euros quand on est héritier ou partenaire ou conjoint, ou à moins de 3 000 euros quand on est tous les autres légataires et héritiers qui ne sont pas en ligne directe. Donc, en fait, dans tous les cas, vous n'avez, à mon avis, pas d'autre choix qu'aller faire un tour chez le notaire, juste déjà pour savoir si on doit faire quelque chose ou on ne doit pas le faire.
Et avant de passer dans
Moi, je l'ai fait. Hein, je l'ai fait pour organiser, on ne sait jamais, vous savez, quand on n'a pas d'héritier, par exemple, direct, mais qu'on a une tripotée de neveux, qu'on a un conjoint qui est un troisième conjoint Forcément, il faut s'organiser. Non, mais c'est important. Est-ce que les gens vous disent, ça les fait flipper de se dire, j'organise ma succession, ils projettent leur mort prochaine.
C'est ce que j'allais vous dire. Je pense que les choses évoluent. Les générations ne réagissent pas de la même manière. Ceux qui ont 70 ans aujourd'hui, ils ont l'impression que parler de ces choses-là, c'est mettre un pied dans la tombe. Ouais. C'est souvent quelque chose d'assez tabou.
Oui, oui.
Je dirais que les jeunes, bien au contraire, ils sont très au fait. Ils veulent justement se renseigner. Ils ne veulent pas se retrouver à ne pas pouvoir organiser les choses.
Ça, vous l'observez, ça. C'est un vrai changement de mentalité.
Ah bah oui. Ça. Ouais. Et puis, c'est vrai pour les successions, mais c'est vrai pour les contrats de mariage. Il y a quelques années, les gens qui faisaient un contrat de mariage, ils allaient chez le notaire conseillé par leurs parents, ils s'asseyaient sans doute 10 minutes et ils disaient merci maître, ils repartaient. Aujourd'hui, les gens n'hésitent pas à nous poser des questions, s'intéressent au régime matrimonial, aux conséquences, et effectivement, ils ont raison de le faire.
Vous connaissez la plus grande cause de divorce en France ?
Non.
C'est le mariage. Parce que vous... C'était facile.
Comment suis-je tombé dans le panneau ?
C'était facile. Merci.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci beaucoup. On vous retrouve, Pauline Bourguignon, votre étude à Paris, dans le 8e arrondissement. À très bientôt. Merci.
À bientôt. Voilà.
Il suffit de taper Pauline Bourguignon, notaire à Paris, et on trouve très facilement.
Merci.
Vous voyez, vous n'avez plus le choix. Directement chez le notaire pour parler de la succession, mais bien d'autres sujets, bien évidemment. Merci, Pauline Bourguignon. On enchaîne avec les séquences du grand rendez-vous de l'immobilier. C'est avec nos amis de Capital.
Ça vous concerne.
Eh bien, bonjour les amis, voilà, vous êtes toujours sur la 60e, et oui, déjà 60 numéros du grand rendez-vous de l'immobilier, vous êtes de plus en plus nombreux à vous suivre, et si, effectivement, après pratiquement 5 saisons, vous êtes toujours avec nous, c'est que ça correspond aussi à vos attentes. N'oubliez pas, vous posez vos questions sur le club Facebook, les proprios gérés par nos amis de Capital, et c'est toujours l'ami Vincent qui s'y colle, le modérateur, le super modérateur. Nous avons une question qui est posée, on ne pouvait pas faire mieux au meilleur avocat de droit immobilier français.
Oui.
Rien de moins.
Rien de moins, c'est Manuel Raison qui est avec nous. Bonjour Manuel.
Bonjour, merci.
Bienvenue. Question pour vous de Martine, propriétaire d'une réserve commerciale dans un immeuble situé à Limoges. Elle souhaiterait louer ce bien à un cabinet paramédical qui pourrait y exercer son activité professionnelle. Est-ce que c'est possible ?
Alors, d'abord, il y a un principe, donc, c'est la liberté d'usage. La liberté d'usage et de jouissance des parties privatives. Donc là, Martine, elle a une réserve, ce qui est intitulé comme réserve au sens, au sein du règlement de copropriété. Elle nous dit, je voudrais le louer et donc le transformer finalement avec une utilisation de cabinet paramédical. Alors, le principe, je vous l'ai dit, c'est, on dirait, bah oui, puisque je fais ce que je veux de mes parties privatives. Évidemment, c'est un principe, il y a des exceptions. Les conditions, c'est de ne pas porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires, ni à la destination de l'immeuble. Donc, on va effectivement avoir une jurisprudence d'ailleurs très récente de la Cour d'appel de Paris du 6 mars 2024 qui nous dit qu'aucune autorisation d'assemblée générale n'est exigée pour changer l'usage des locaux.
D'accord.
Alors, effectivement, à la condition que cela n'entraîne pas, rappelle la Cour, des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage. Mais encore une fois, il y a deux choses. Il y a les inconvénients normaux du voisinage et il y a aussi effectivement la destination de l'immeuble. La plupart des immeubles ont une clause dite souvent d'habitation bourgeoise. Et donc là, ce qu'on a une clause d'habitation bourgeoise, avec souvent une petite modération, une tolérance pour les activités de profession libérale, ça veut dire qu'on ne peut pas. Donc, il va falloir effectivement analyser le règlement de copropriété, voir si on est on a une clause d'habitation bourgeoise, ça veut dire qu'il n'y a pas de commerce, d'accord ? Auquel cas, on pourra ne pas le faire. Ce qu'on peut comprendre dans de la lecture de la question de l'auditeur, c'est que il a une commercialité puisque on avait une réserve commerciale, nous dit-elle, effectivement, dans le règlement de copro. Donc, c'est-à-dire que on est dans un règlement de copropriété qui prévoit quelque chose de mixte. Auquel cas, il n'y a pas de problème, on peut effectivement avoir cette activité sous réserve de ne pas créer des problématiques de troubles anormaux du voisinage. Alors, qu'est-ce qui va se passer des types de problématiques ? C'est éventuellement une action des copropriétaires qui vont dire « bah oui, mais ça nous cause, effectivement, il y a du va-et-vient dans l'immeuble », ce genre de choses. On a là très récemment une jurisprudence qui nous dit que, par exemple, il ne suffit pas de faire une pétition dans l'immeuble pour dire que ce sont des troubles anormaux du voisinage. Il faut des constats objectifs, donc préparer un dossier. Mais en tout cas, le principe, pour le cas de l'espèce, c'est que c'est possible sans autorisation d'Assemblée générale, puisqu'il n'y a pas de clause d'habitation bourgeoise et qu'il y a une mixité.
Et ça s'appelle une réserve commerciale. Donc on savait bien, dès le règlement de copropriété, qu'il y avait peut-être une destination commerciale qu'elle décide, là, du coup, d'utiliser, en fait.
C'est ça.
Sans changement de destination.
Ce que nous dit la jurisprudence, c'est qu'en fait, quand bien même on a le contrat, c'est quoi ? C'est ce règlement de copro qui dit que c'est une réserve, ce n'est pas une boutique, ce n'est pas un cabinet. Et donc, en fait, la liberté prime...
C'est une capacité à utiliser.
La liberté prime à, effectivement, ce contrat, sous les conditions que cela ne cause, encore une fois, pas de trouble anormal du voisinage, et qu'il n'y ait pas non plus de règlement de copropriété qui impose uniquement l'habitation.
Bonne réponse, alors.
Bonne réponse, tout à fait. Une autre question maintenant. Victor, propriétaire à Tours, il loue son bien à usage d'habitation pour la première fois. Il souhaite identifier les charges qu'il peut récupérer auprès de son locataire. C'est vrai que c'est toujours un peu technique quand on loue pour la première fois. Comment il peut faire, simplement ?
Ça, c'est parce qu'il loue par lui-même. Hein. C'est parce qu'il n'a pas d'administrateur.
Alors voilà, c'est parce que s'il se pose la question, c'est parce qu'il loue par lui-même. Mais en tout cas, s'il décide de continuer comme ça, les choses sont assez bien définies par le texte, puisque le principe, c'est la loi du 6 juillet 89 qui prévoit la récupérabilité des charges. Et qui nous dit que finalement, il va y avoir un décret qui va lister finalement le type de charges qui sont récupérables. Alors ça, c'est valable pour les baux qui sont les locaux à usage d'habitation ou mixtes et professionnels, c'est-à-dire habitation et professionnels, à partir du moment où ils constituent une résidence principale. Aux logements également qui constituent meublés, les logements meublés également qui constituent une résidence principale, mais également aux logements meublés loués dans le cadre d'un bail mobilité. Donc, dans ce cadre-là, on a un principe, c'est la récupérabilité des charges. On a un décret qui est très clair, c'est le décret pour votre auditeur du 26 août 1987 qui fixe effectivement la liste qui est, le rappel, la Cour d'appel de Versailles encore récemment, limitative. D'accord ? Donc, on ne peut pas extrapoler dans le contrat en disant « je vous rajoute ça, ça, exactement ».
Mais qu'est-ce qu'on
entend ? Pour exemple, la taxe foncière,
voilà, taxe foncière,
elle n'est pas récupérable.
Ah d'accord.
Non. Et encore une fois, je le précisais aujourd'hui, on est là dans le cadre des baux d'habitation. Ouais. J'ai fait la liste, effectivement, des meublés, mais on n'est pas dans les baux commerciaux.
Donc la fiscalité n'est pas récupérable. Donc la taxe foncière est à la charge du propriétaire.
Exactement. La taxe foncière, ce n'est pas récupérable. Après, vous avez, par exemple, les charges récupérables, les charges liées aux ascenseurs, qui incluent les dépenses d'électricité, les charges d'eau froide, d'eau chaude. D'une manière générale, le principe, pour comprendre, voilà, c'est assez logique en fait, c'est le principe, c'est quoi ? C'est que tout ce qui est finalement de l'entretien courant, des menus réparations, tout cela est récupérable. Les travaux importants, ce n'est pas récupérable, ça reste à la charge
du propriétaire. Je change la chaudière.
Alors là, après, on va rester dans les trucs techniques et tout, merci de ta question.
Non, alors, changez pas tout de suite la chaudière.
Non, mais on a des exceptions. La problématique, ce qui est vraiment ce qu'il faut retenir pour l'éditeur, c'est qu'on a cette distinction qui est complètement, comme tu le disais, Sylvain, très logique finalement entre les menus réparations, le courant, l'entretien courant et la grosse réparation. Ouais. Attention, exception, si mes menus réparations sont la cause d'une vétusté, d'un vice de construction, c'est pas la même chose. Là, on va effectivement, si on a un locataire qui va se voir imputer des charges parce que, je ne sais pas quel exemple, il va devoir payer X problèmes de menus réparation qui sont dus à un vice de construction ou effectivement à une vétusté, eh bien là, on a une exception à ce distinguo. Alors, petite dernière chose importante, c'est le délai. C'est 3 ans, en gros. C'est-à-dire que le propriétaire a 3 ans pour réclamer des charges récupérables qu'il n'aurait éventuellement pas récupérées dans l'année en cours.
Et au-delà,
c'est fini.
Prescrit.
Et le locataire, lui, a 3 ans pour, effectivement, remettre en question, contester le paiement de charges qu'il estimerait être indu. À partir de quand ? 3 ans également, à partir du moment où il a connaissance du caractère indu du paiement.
Merci beaucoup, Manuel Raison.
Il faut toujours vérifier. Et puis, une petite recommandation, passer par un administrateur de biens, ça va être beaucoup plus simple.
Et pour vous retrouver, Manuel, c'est raison-avocat au pluriel, .fr.
Voilà, mais il n'y a pas moyen de faire autrement. On a besoin d'un avocat, on appelle Manu La Raison. Il l'a toujours, d'ailleurs. Merci. Voilà, je ne pouvais pas m'empêcher. Merci, Manuel. On enchaîne. Ah, bah, écoutez, c'est bientôt la fin de notre circuit. On se retrouve tout de suite après ça.
Le grand témoin.
Voilà, le grand témoin, seconde partie, et il est toujours resté avec nous. C'est notre grand invité de ce mois de juin 2024, Sharon Elbaz. Merci d'être avec nous et d'avoir justement répondu à cette première partie. Je rappelle que vous êtes le président de Next City Héritage. Moi, j'aime beaucoup le mot héritage, parce que je trouve qu'il y a une vision presque holistique, hein, en fait, l'idée du patrimoine qui revient. Je vais enchaîner tout de suite avec la première question. Si vous voulez bien, Antoine, on va entrer dans le vif du sujet. On parle de régénération urbaine et souvent, on fait... Alors, Les néophytes disent rénovation, régénération, transformation. C'est vrai qu'on dit qu'à Paris, il y a 2 millions ou 3 millions de mètres carrés de bureaux vides qui seront peut-être du logement. Néanmoins, il y a une chose que l'on voit et j'aimerais que vous nous indiquiez, revenir d'ailleurs également sur la genèse de la construction de Héritage et votre, tracé, toute votre ligne de crête pour votre nouveau modèle économique. On le voit bien. Les coûts de construction ne pouvaient pas faire grand-chose, puisqu'on a une flambée des matériaux, on a aujourd'hui des contraintes normatives auxquelles on ne peut pas se soustraire. Ce n'est pas une activité délocalisable, hein, on ne peut pas fabriquer ça à l'autre bout du monde. Il y a un vrai souci de coût du logement abordable pour les Français, vous le savez. Comment vous allez résoudre ces équations? Et plus largement, comment Héritage va se positionner comme étant la marque dédiée justement à cette régénération urbaine?
Alors, régénération urbaine, vous avez parlé de rénovation, restauration, etc.
Donc, oui, qu'est-ce qu'on entend?
Voilà. Regardez, le plus simple, la restauration patrimoniale. C'est un métier qui existe avec des leviers fiscaux, parce que c'est très cher. Là, on est drivé par les architectes des bâtiments de France.
C'est de l'immobilier classé, quoi.
C'est du monument historique, c'est des secteurs Malraux. On avait une filiale qui s'appelle Patrimoine et Valorisation, qui aujourd'hui fait partie du pôle héritage, qui faisait ça depuis 5-6 ans. J'allais dire, c'est de l'immobilier de niche. Et cet avantage fiscal est indispensable pour assumer ces frais de restauration qui sont élevés. Petit à petit, il y a quand même d'autres leviers fiscaux qui permettent en région. Vous avez le déficit foncier, avec le même principe, qui est de transformer une caserne. On a des exemples, on a des casernes de gendarmerie, on a des anciens parkings dans Paris. Chaque fois que l'usage des bureaux, des bâtiments administratifs, on a transformé le siège de la chambre de commerce à Reims, à Abbeville, qui était un petit peu obsolète du point de vue tertiaire, et qu'on a transformé en logement.
Et j'ai vu, c'est magnifique, c'est super.
Il y a des leviers fiscaux, donc en termes d'investissement, c'est assez intéressant puisqu'on déduit tout ou partie des travaux.
Donc du coup, ça devient attractif pour l'investisseur.
Ça devient attractif et on arrive avec un marché, il faut qu'il y ait un marché locatif, hein, on ne peut pas le faire partout, etc. Donc on a beaucoup d'exemples sur le territoire, on a beaucoup d'offres de gens qui considèrent qu'aujourd'hui, du point de vue carbone, mais du point de vue des usages aussi, il faut privilégier la transformation de l'existant. Donc c'est un bâtiment, au lieu de le démolir, on le transforme. Alors tous les bâtiments, selon la morphologie, tous les immeubles de bureaux ne sont pas transformables. C'est pour ça que la régénération urbaine, ce n'est pas la martingale. Elle est appelée à occuper une part de plus en plus importante de la promotion. Mais il y aura
ça
ne toujours...
va pas remplacer le métier de promoteur.
Absolument pas, parce qu'on fait toujours notre métier. C'est quoi le métier de promoteur? C'est un métier d'ensemblier. C'est-à-dire qu'on met toutes les énergies, les expertises autour de la table, et c'est exactement le même métier. Il devient un peu plus complexe, parce qu'il faut maîtriser
Vous le faisiez déjà dans le groupe.
Pourquoi
créer une marque héritage?
C'est quoi Véronique Bédag, on parlait de la transformation, notre présidente, on parlait de la transformation du groupe. On a décidé de lancer ça il y a un an, un peu avant la crise. En réunissant trois filiales.
Oui, vous avez trois filiales que vous avez réunies.
Qui étaient déjà dans la transformation de bureaux en logement, dans la restauration patrimoniale, dans la transformation de grands quartiers, avec un seul leitmotiv qui est la mixité des usages. Hein. On ne veut plus du mono-utilisateur, l'immeuble de bureau, le quartier fonctionnel, mono-fonctionnel, le quartier commercial, le quartier des bureaux, le quartier résidentiel. Aujourd'hui, l'avenir, et ça fait un moment au niveau des quartiers, mais aujourd'hui ça arrive à l'échelle de l'immeuble, on arrive à créer de la mixité d'usage avec un socle commercial, un peu de bureau, du co-living, du senior,
de l'hôtellerie,
la résidence hôtelière, toute la gamme de ce qui fait la ville, en fait, de tous les usages. Et ça, on les mixe à l'échelle de l'immeuble comme à l'échelle
du quartier. Est-ce que c'est nouveau, ça, comme paradigme ? Est-ce que c'est nouveau, cette idée qu'on est vraiment axé sur de la mixité fonctionnelle et du
aujourd'hui, en créant Héritage, on a voulu incarner un choix stratégique du groupe.
D'accord.
Le groupe a fait ce choix stratégique de la régénération.
D'où la raison de la création d'Héritage.
C'est accéléré.
C'est ça.
Parce qu'on ne fera pas toute la régénération urbaine, parce que c'est immense. Hein, c'est tous les friches industrielles, commerciales, les entrées de ville, les immeubles à réhabiliter et à transformer. C'est un marché qui est colossal. Le modèle économique est en train de s'affiner. Mais le marché est colossal, la demande est colossale. Aujourd'hui, il n'y a plus un maire de cœur de ville, à Paris, à Lyon, etc., qui ne vous dira pas, en cœur de ville, je vais privilégier, pour plein de raisons, la réhabilitation. Pourquoi ? Parce que c'est des projets, en général, qui sont plus acceptés par les concitoyens, les riverains, parce qu'il y a déjà une enveloppe, il y a un
gabarit. Que les collectivités locales n'ont carrément plus les moyens de rénover elles-mêmes.
Elles ne peuvent pas, parce que c'est un patrimoine qui est lourd à rénover, et la ville, elle bouge. Donc, on ne peut pas ne rien faire, puisque derrière ces immeubles qui n'ont plus de locataires, c'est les friches et les squats de demain, si j'ose dire, avec beaucoup de nuisances pour les riverains. Donc, tous les élus qu'on peut rencontrer, que je rencontre, ont le même diagnostic. Il faut faire quelque chose, il faut le transformer. Et la régénération urbaine, puisqu'elle est décarbonée, et puisqu'elle travaille sur les usages en collaboration avec les riverains, avec les élus, on pense que c'est l'avenir. Est-ce que c'est le seul moyen de créer du logement en France ? Non. Ça va coexister aux côtés du neuf qui sera lui-même décarboné.
C'est très clair. Antoine.
Alors, puisqu'on parle de changement d'usage de ces immeubles et de modèles économiques, surtout, qu'il faut trouver, je pense que c'est votre enjeu, quels sont les immeubles, en fait, aujourd'hui, qui réellement trouvent leur modèle économique dans la régénération ? Est-ce que ce sont les bureaux ? Ou est-ce que ce sont les entrepôts ? Est-ce que ce sont d'autres friches ? Qu'est-ce qui peut vraiment être régénéré aujourd'hui ?
Des bâtiments publics
à des coûts corrects, quoi.
On a tous les cas de figure. En fait, je ne peux pas. C'est-à-dire que la localisation est importante. Donc, en fait, pour qu'il y ait transformation, il faut que l'usage, la sortie commerciale, absorbe ce coût de la transformation. Ça coûte cher de réhabiliter, etc. C'est maîtrisé, mais ça a un coût. Et donc, il faut que l'usage final puisse permettre cette transformation, au-delà de la morphologie, de la technique, etc. Donc, on a des casernes de gendarmerie, on a des vieilles écoles, on a, avec ou sans leviers fiscaux, parfois, on n'a pas de leviers fiscaux particuliers, on réhabilite, et puis c'est pour faire un hôtel, c'est pour faire une résidence hôtelière, du co-living, une résidence étudiante. Et on a des cas à Limoges, par exemple, on transforme un ancien Crous, on a pu le réhabiliter et on a une nouvelle résidence étudiante toute neuve. On a souvent, ce qui est intéressant, et je pense que c'est l'avenir de la transformation, c'est les projets mixtes. C'est-à-dire que vous avez une partie à réhabiliter, qui trouve un nouvel usage, mais sur la parcelle, on peut aussi densifier, puisqu'on peut créer du neuf.
Oui.
Et l'ensemble, on peut surélever un bâtiment.
Étendre,
on peut surélever, on peut l'étendre. Et on a à peu près toute latitude pour essayer de créer de la valeur du point de vue économique qui puisse légitimer cette transformation.
Alors, la question d'Antoine est intéressante parce qu'effectivement, ce qu'on comprend dans votre définition, c'est qu'il y a un opportunisme qui est lié au territoire, ce qui est très bien d'ailleurs. La mixité, mixité d'usage, mixité fonctionnelle. Et vous avez évalué tout à l'heure, vous avez parlé des modes constructifs, justement, les modes constructifs. On le sait, les Français, ce qui est un paradoxe, parce que les mêmes qui vous disent « je veux pas de grue le vendredi » sont les mêmes qui vous demandent une crèche pour le petit ou un appartement pour le cousin le lundi matin. Bon, parfois on fustige les maires, mais je me mets un peu à leur place. C'est pas valable pour tout, le fait de, effectivement, ce que vous l'avez abordé en sous-jacent. Il y a des villes qui auraient bien besoin d'être régénérées, qui auraient bien besoin d'être revitalisées en cœur de ville. Et d'ailleurs, il y a un programme qui s'appelle le programme Action Cœur de Ville, mais tout n'est pas possible. Est-ce que vous pourriez, pour nos auditeurs, nous détailler les idées d'investissement qu'on peut faire ? Vous avez parlé du déficit foncier. Qu'est-ce que c'est ? Vous avez parlé de la loi Malraux pour le patrimoine remarquable. Mais est-ce qu'on peut aussi parler de ce qu'on appelle le Denormandie dans l'ancien, qui permet de faire aussi de la rénovation ? Est-ce que vous vous inscrivez dans cette démarche ?
Alors complètement, c'est-à-dire qu'on se rend compte que pour que la transformation soit économiquement viable, notamment en région, on a souvent recours à ces leviers fiscaux. Donc il y a les historiques Malraux et Monument historique. Monument historique, c'est l'immeuble lui-même qui est classé.
Ok.
Comment Malraux, c'est une géographie. Ouais. Et vous déduisez de vos impôts le coût des travaux.
Combien?
Alors, entre 30, 50, 100%, ça dépend du dispositif.
D'accord. C'est hyper intéressant fiscalement.
C'est intéressant. On pense que ces niches sont appelées à se développer. Ça reste des niches. Pour vous donner un ordre de grandeur, Malraux et Monuments historiques, tout confondu aujourd'hui, c'est moins de 1000 logements par an. Donc, ça restera des niches parce que c'est assez complexe. Ça s'adresse à une petite partie de la population.
Oui, il faut avoir des moyens, vous voulez dire.
Après, on a d'autres exemples. Hein. C'est, vous prenez par exemple les garages dans Paris. La voiture au cœur de Paris, on en a deux dans le Marais. Il y a une obsolescence de l'usage parking.
Ouais, on en parle de plus en plus, hein, des places de parking.
Il y a eu les places de parking. Il y a eu effectivement une exposition au pavillon de l'Arsenal où effectivement on montrait que la ville de Paris avait inventorié tous les parkings qui pouvait être transformé, donc on l'a transformé en logement social. On n'a pas simplement transformé en logement social, parce qu'on a fait de l'ULS, de l'usufruit locatif social. C'est un autre dispositif.
Ça, Héritage sait le faire.
Avec une filiale qui s'appelle Perle, qui est une filiale de Nexity, on travaille avec eux, puisqu'on vend la nue propriété à un investisseur, et l'usufruit locatif sur 15 ou 20 ans, c'est un bailleur social, la RIVP, le CROUS, etc., qui va placer là des Français qui vont se loger. C'est du logement social pur. Donc on a transformé au cœur de Paris, on a réussi à créer 50 logements ici, 60 logements sociaux avec ces dispositifs. Donc la régénération telle qu'on la voit en cœur de ville, c'est quelque chose d'assez technique dans la construction, etc. Et le but d'Héritage, c'est d'accompagner l'ensemble des filiales territoriales de Nexity. Et on a une avance là-dessus, parce que ça fait 7-8 ans qu'on fait ça dans nos filiales spécialisées, de les accompagner pour faire beaucoup plus. C'est pour aller au-delà de ce qu'on peut faire dans le cas d'Héritage.
Antoine.
Et alors, effectivement, régénérer la ville, c'est parfois une nécessité. Dans certaines, notamment, je pense à des centres-villes qui sont parfois un peu délaissés au niveau des commerces, etc. Et moi, je me pose la question de l'usage, en fait. C'est, quels sont les usages aujourd'hui, quand on régénère un bâtiment, quels sont les usages les plus porteurs? Est-ce que ce sont des logements? Est-ce que ce sont des commerces, quand on parle de réaménagement du territoire? Ou c'est quoi les besoins
quand on sait que le logement est la pierre centrale de toutes les problématiques?
Oui, mais quand on régénère, en fait, on est assez agnostique sur la sortie commerciale. Il faut être très pragmatique. Et je pense que c'est un terme.
Est-ce que ça veut
la sobriété, c'est important, mais pragmatisme aussi.
Est-ce qu'il y a des opérations sur lesquelles vous n'allez pas parce que vous vous dites il n'y a pas de sortie possible?
Oui, parce que ça reste l'immobilier. On doit rester dans un modèle économique. Donc, effectivement, des châteaux en péril, il y en a beaucoup dans toute la France. Et derrière nous, notre but, c'est de créer des logements. Donc souvent, avec ces dispositifs, il y a une sortie locative. Donc il faut qu'il y ait un marché locatif, il faut qu'il y ait un investisseur qui y croit. Et là, on rajoute de la mixité. J'ai des exemples à Reims. On peut créer du logement au-dessus, mais on peut garder, je pense à un ancien immeuble, on peut créer le socle commercial. On peut introduire de l'étudiant. Ça, tout dépend, ces nouveaux usages, on les détermine avec les collectivités, avec les élus, en leur disant « vous avez besoin de quoi ?» Et effectivement avec nos partenaires. C'est pour ça que la régénération, ça suppose deux partenaires clés pour que ça fonctionne bien. En amont, on s'allie avec des gens qui portent les fonciers, qui amènent les capex, les investissements, etc. Donc on a un fonds qui s'appelle Mirabeau, par exemple, mais ça peut être aussi la Caisse des dépôts, ça peut être 3F, Action Logement, etc., qui nous accompagnent dans cette transformation en amont sur les capitaux. Et vous allez voir que de plus en plus, vous avez des fonds qui sont très sensibles à la dimension ESG de leurs investissements.
Bien
et
sûr.
Donc par nature, qui ne veulent que des opérations de régénération urbaine.
Environnement, et ça, c'est social, important. Gouvernance.
Et à l'autre bout, juste pour finir,
oui,
en amont, c'est l'investisseur qui nous accompagne. Ça nous évite de mettre trop d'argent sur la table.
Mmh. Quel type d'investisseur?
Mirabeau, une banque genevoise, des fonds, beaucoup de fonds. On transforme des fonds qui possèdent des actifs qui n'ont plus de locataires, donc on les aide à transformer ces actifs, des fonds qui nous permettent de porter l'acquisition de l'immeuble, qu'on achète souvent cash, et puis nous, on le transforme. Et à l'autre bout de la chaîne, vous avez des partenaires très puissants, les exploitants. C'est ça qu'on dit que Nexity se repositionne sur un modèle de promoteur-exploitant, parce que l'exploitation de ces nouveaux usages, c'est la clé. Il faut, alors vous savez qu'on a Studéa pour les résidences étudiantes, on a Urban Campus pour tout ce qui est co-living, on a Morning pour ce qui est coworking. Ça, c'est important d'avoir des gens qui soient susceptibles et qui soit capable d'exploiter ces nouveaux usages urbains et ces nouveaux usages résidentiels en l'occurrence.
Et finalement, et il est l'heure de conclure, finalement, sur ce qu'on comprend, Sharon Elbaz, c'est que finalement, Nexity n'a pas attendu finalement les soubresauts des crises pour amorcer finalement en profondeur un rebond, peut-être un déploiement de nouvelles activités au sein de votre groupe. Mmh. On le voit bien de plus en plus, même si effectivement, on le voit aussi également, vous avez été très lourdement impacté par cette crise, mais tout bouleversement étant propice au changement, on voit bien effectivement qu'il y a un capitaine sur le navire, effectivement. Merci d'avoir accepté cette invitation à partager avec nous. Je rappelle, Sharon Elbaz, que vous êtes le président de Nexity Héritage. Merci d'être passé sur le plateau.
Merci.
À suivre les interventions comme chaque mois avec Ça vous concerne, le conseil des experts. N'hésitez pas d'ailleurs, que ce soit pour Sharon Elbaz ou pour nos experts, de poser toutes vos questions. Vous avez l'onglet qui est juste en bas. Vous dites, voilà, j'ai besoin d'informations. Vous avez parlé de location loyer intermédiaire. Vous avez parlé de BRS. Vous avez parlé de choses dont on n'a plus réellement l'habitude pour les Français. En tout cas, notre but, ici au Rendez-vous de l'Immobilier avec Antoine, c'est de vous donner toutes les clés de lisibilité. On se retrouve tout de suite après ça.
Ça vous concerne.
Les amis, ça vous concerne, troisième et dernière partie pour cette 60e. On est ravis d'être avec vous. Il nous fallait la meilleure agent immobilier français. Voilà.
Ah bon. Oui.
On est d'accord.
Ah mais je confirme tout
voilà,
à fait, Sylvain.
Voilà. Exceptionnellement, elle a trouvé un tout petit peu de temps dans son calendrier. Nous sommes très honorés de l'avoir sur le plateau. C'est notre amie Anne Boucaud.
Bonjour à tous et bonjour, merci de m'accueillir.
Voilà, vous voulez aller sur le Plessis Robinson? Je l'ai dit, hein, parce que chaque fois je me trompe, hein, je dis le Plessis Trévisan.
Oui, c'est après, vrai.
Le Plessis Robinson, on tape Anne Boucaud,
l'agence,
c'est très
France.
Facile. Voilà. On peut le dire.
Meilleure ville de France, tu peux le dire.
C'est vrai qu'on y vit très très bien. Et en plus, c'est hyper bien raccordé, j'ai vu, c'est super. Il y a
Oui. En plus, tu as le tram et puis ils veulent prolonger d'autres transports. Donc,
un quart d'heure, on est dans le centre de Paris.
Exactement, 20 minutes, ouais.
Ouais, 20 minutes. Ouais. Que dit mieux, voilà.
que demande le peuple.
Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a comme question?
Des questions. Rémi, à Salon de Provence, a une question posée sur le groupe Facebook, le Club des Proprios, pour vous, Anne Boucaud. Il est propriétaire d'une maison secondaire dont il paie la taxe d'habitation. Sa nièce y vit en hébergement gratuit depuis le début du mois. Est-ce qu'il va continuer à payer la taxe s'il l'héberge, sa nièce? C'est la question de Rémi.
Alors, la réponse est oui. Effectivement, il va continuer à payer cette taxe parce que, comme la nièce est hébergée à titre gratuit, il va continuer à la payer. Si jamais il avait un locataire en place, c'est différent parce que c'est l'occupant qui paye au 1er janvier. Et si on veut faire un autre petit focus, depuis le 1er janvier 2023, la taxe d'habitation pour les résidences principales a été supprimée, mais elle a été conservée pour les résidences secondaires.
Mmh. Ah, d'accord, parce que je me disais, mais c'est la taxe foncière, là, parce qu'elle a été supprimée. Mais non, il est une maison secondaire. Donc les propriétaires, déjà qu'on n'a pas épargné, hein. Non, mais c'est incroyable, quand même. Ils se tapent la taxe foncière de leur résidence principale, parce que ça, elle n'a pas été supprimée, quand on est propriétaire.
Tout à fait.
Et de la résidence secondaire, c'est taxe foncière, plus taxe d'habitation.
Ça s'appelle la double peine, Sylvain.
Ouais. Alors là, c'est là, merci Manu. Allez, alors qu'est-ce qu'on donc du coup,
oui, il va continuer à la payer et il y a bien une taxe d'habitation pour les résidences secondaires.
Donc en fait, il paye parce que forcément c'est une occupation à titre gratuit.
Voilà, c'est à titre gratuit. Si jamais il y avait un locataire en place, en revanche, c'est différent parce que c'est l'occupant qui paye quand on fait sa déclaration d'impôt.
C'est très clair.
En fonction de là où on réside, on paye sa taxe d'habitation.
Direction Quimper.
Quimper avec Brigitte. Elle a une future locataire qui lui demande de régler sa caution de 2 mois, soit 1 400 euros au total, en 2 fois sur 2 mois. Est-ce que c'est légal? Est-ce que c'est normal? Qu'est-ce qu'on peut conseiller? Est-ce qu'on lui conseille d'accéder à cette demande?
Alors déjà, le terme caution, c'est utilisé en fait pour indiquer plutôt le dépôt de garantie.
Ouais.
Et ça, c'est important de faire cette précision. Donc, on peut tout à fait accéder à la demande de ce locataire. L'intérêt, c'est d'établir un formalisme précis en indiquant sur un document en bonne et due forme. Donc déjà, il faut que les deux parties, bien évidemment, soient d'accord. Et de préciser en chiffres et en lettres comment les choses vont se passer, c'est-à-dire les dates de paiement et le moyen de paiement. Donc, par exemple, si c'est échelonné sur 2 mois ou 3 mois, on peut tout à fait le faire en indiquant pour les deux parties les paraphes et signatures pour que tout soit clair pour les deux parties.
Quelle différence on fait entre caution et dépôt de garantie ?
En fait, la caution, c'est d'une manière générale, on dit le mot caution, mais en fait, le terme légal, ça s'appelle dépôt de garantie. Et d'ailleurs, c'est pour le dépôt de garantie pour les logements meublés, ça peut être jusqu'à 2 mois. Et pour les logements vides, c'est 1 mois de loyer en charge.
D'accord. Et donc, il s'agit là d'une formalité qui peut être accordée aux locataires,
oui,
sous réserve de bien border juridiquement les choses avec
exactement
un petit contrat.
Exactement, avec un document où tout est bien bordé et avec le principal, c'est vraiment d'avoir les paraphes et les signatures sur le même document.
Merci beaucoup.
Avec plaisir.
Alors, je vais poser une toute petite question. Oui. Comment se porte le marché actuellement sur le Plessis Robinson?
On observe, Sylvain, une baisse assez conséquente, hein, parce que en gros, nous, on observe depuis un an des baisses entre -11 et -13%, donc une moyenne plutôt à -12%. Sur la ville
92
en
sud, hein, on est proche,
sud,
on est proche d'ici Moulineau, on est proche
de Paris.
Châtillon.
Tout
voilà.
À fait.
Voilà.
Ouais.
Et en 20 minutes, on est dans le centre de Paris. Hein.
C'est ça.
Très bien raccordé.
Très bien raccordé. Okay. Une ville
avec des baisses de prix, on pourrait s'attendre à une reprise des ventes ou pas?
C'est ce qu'on espère. Là, pour le moment, c'est encore un petit peu mou, mais c'est vrai qu'on tend quand même, on sent que là, peut-être avec l'arrivée aussi du printemps et de l'été, on voit quand même qu'il y a peut-être un petit peu plus d'engouement et un petit peu plus de recherche. On sent que peut-être que certains acquéreurs qui ne l'étaient plus pendant quelques mois, avec la baisse des taux, ont un petit peu plus confiance.
Moyenne du mètre carré sur le Plessis?
En
maison
gros,
ou appartement.
Hein,
maison
on
et
est
appartement.
Entre le plus bas, on est un petit peu moins de 4 000 et on peut monter jusqu'à 7 500 pour des biens d'exception.
Pour les maisons, c'est...
Pour les maisons, c'est en moyenne, je vais te dire, entre 6 et 7 000
à
peu près.
Ça reste quand même assez attractif quand on compare les prix, ne serait-ce qu'à une encablure du Plessis Robinson. Le bon réflexe pour le Plessis Robinson, où il fait bon vivre, c'est l'agence Dan Bocco Immobilier.
Merci beaucoup, Anne.
Merci Anne. À vous, messieurs.
Voilà, on enchaîne, c'est bientôt la fin de nos programmes. On se retrouve dans quelques instants. Et on vous dit quoi à l'instant? Merci, les amis.
Le grand rendez-vous de l'immobilier.
Eh bien, les amis, voilà, c'est terminé pour cette 60e. Il ne pouvait pas y avoir de hasard. 60, c'est un très bon chiffre. C'est la conclusion de ce mois de juin 2024, bien sûr, bien évidemment, bien marqué pour l'actualité. On va vous souhaiter à toutes et à tous un très, très, très bel été. On va faire en sorte que chacun d'entre vous puisse prendre soin des uns et des autres. C'est très important. Et avec notre ami Antoine Laurent et les équipes de Capital, on va vous préparer un super programme dès la rentrée, puisqu'on vous informe, c'est officiel, que nous serons là dès septembre 2024. N'est-ce pas, Antoine ?
Tout à fait. Tout à fait. Avec grand plaisir. Pour faire une nouvelle saison. Que j'espère très riche.
Absolument.
Voilà,
et d'ailleurs, Antoine, vous faites partie également de l'équipe du grand jury de la presse immobilière. Voilà, vous lisez régulièrement les articles d'Antoine Laurent. L'heure des remerciements, bien évidemment. Je remercie bien évidemment notre invité, qui est d'ailleurs toujours avec nous sur le plateau, Sharon Elbaz, président de Next City Héritage. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup cette image de l'héritage, parce qu'il y a tout dedans. Il y a le patrimoine de notre pays. Et il y a aussi le souci des uns et des autres dans le logement des Français, qui est le souci premier de Next City. Merci d'avoir passé ce moment avec
Merci
nous.
À vous.
Et c'est même symbolique, puisque on vous accompagne également toute l'année dans les villes de France. Un grand merci à Vincent Favreau, notre super producteur, qui est avec nous dès la première émission. Il l'a produite il y a plus de 5 ans maintenant. On l'appelle le basketteur, la NBA de la radio immobilière. Vincent Favreau, toujours aux commandes du club Facebook Les Proprios. Je rappelle que c'est le club que vous utilisez pour poser toutes vos questions. Un grand merci également au super Nico. Voilà, Nicolas, il va se retrouver. Nicolas Sandanasamy, le super réalisateur et toutes ses équipes. Merci à Théo, merci à Baptiste, merci à Jason, les équipes de Radio Immo. Merci également aux équipes support de Prisma Press, Capital, que ce soit Hélène. Maintenant, on a une super patronne qui s'appelle Elodie. On la remercie vraiment de nous accompagner dans ce mouvement, mais aussi toutes les équipes de Capital globalement. On est ravis de consolider ce partenariat, c'est historique. Nous sommes nés avec vous, on va grandir bien évidemment, pour vous aborder plus de conseils. L'année prochaine, d'ailleurs, avec Antoine, on va retravailler un peu le concept de l'émission pour vous donner de plus en plus d'informations pratiques, faciles à consommer. Vous êtes plus de 400 000 à nous suivre individuellement chaque mois. Voilà, c'était pas évident d'arriver à ce chiffre-là. Je voulais conclure cette 60e pour repartir sur une saison en vous remerciant, vous, les auditeurs, les téléspectateurs, toutes celles et ceux qui nous écrivaient tous les jours pour bien faire notre métier. Merci encore. D'ici là, prenez soin de vous. Passez un très, très bel été.
Le grand rendez-vous de l'immobilier à retrouver sur Radio Immo et capital.fr.